France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les malgré nous réintégrés dans la mémoire nationale, ces 130 000 soldats contraints de combattre sous l'uniforme allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Hommage d'Emmanuel Macron ce matin, en ce 11 novembre. Réaction et explication avec notre invité, l'historien et producteur de France Inter, Philippe Collin. À suivre encore, Salah Abdeslam, qui aimerait rencontrer des parties civiles, des victimes des attentats du 13 novembre. Nous verrons ce qu'en dit l'une d'entre elles. Le festival de la bande dessinée d'Angoulême, en sursis. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
Les auteurs annoncent le boycott.
Oui, ils sont en fronde contre la société organisatrice très critiquée du festival et qui vient pourtant d'être reconduite pour 10 ans.
A tout de suite pour vos précisions. Des trains made in China bientôt en circulation en Europe. Une première, la terramation alternative à la crémation et à l'inhumation pour les défunts quand les chairs se transforment en humus. On va vous expliquer l'exceptionnelle douceur de ce mois de novembre. Nous serons à Marseille. À partir de 13h30, on parle rugby avec le président de la Fédération française, Florian Grill. La défaite de samedi face à l'Afrique du Sud, l'engouement du public toujours pour cette équipe de France, les finances dans le rouge, la sécurité des joueurs amateurs, 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France, vous y êtes peut-être rendu ce matin, la France des monuments aux morts en ce 11 novembre. Ce sera avec Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, le médecin Baptiste Beaulieu demande Brigitte Fontaine.
Ce qu'elle dit, c'est que je n'ai besoin de personne pour être dépressive et j'ai pas besoin d'un homme pour être heureuse et j'ai pas non plus besoin d'un homme pour être dépressif. Laissez-moi seul avec ma dépression. Et je trouve que c'est un acte d'une liberté folle que de poser ça comme ça dans une chanson, quoi.
Et ce sera avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Ce n'est pas un épisode de la Première Guerre mondiale qu'Emmanuel Macron a souligné en ce 11 novembre, 107e anniversaire de l'armistice de 1918, mais une page de la Seconde Guerre. Les malgré nous, ces soldats alsaciens et mosellans incorporés de force dans la Wehrmacht, dans l'armée allemande. Le président de la République a dévoilé ce matin une plaque qui leur rend hommage dans le Saint des Saints de l'armée française, c'est-à-dire l'Hôtel des Invalides à Paris. Cette reconnaissance symbolique était attendue depuis longtemps en Alsace et en Moselle. 6 de ces soldats encore vivants y ont assisté. Parmi eux, l'Alsacien François Döchter, 101 ans, beaucoup d'émotion pour son arrière-petit-fils, Théophile, 23 ans, présent sur place avec toute la famille.
C'était important pour lui, au-delà de la rencontre du président, c'est surtout la reconnaissance des malgré nous qui était importante. Beaucoup, beaucoup d'émotions, c'était émouvant en fait. Avant de partir, il avait une photo sur laquelle, comme dit, il y avait des camarades à lui qui venaient des villages alentours, une photo qui date des années 70, où il y a d'autres malgré nous qui s'étaient réunis après la guerre, puisque l'arrière-grand-père a voulu les réunir. Il a pris cette photo et il a dit qu'il y allait pour eux. Vous savez, toutes les familles alsaciennes qui ont connu ce drame, il y a une émotion très forte. Il y a une émotion qui est intergénérationnelle.
Théophile Döchter au téléphone de Lou Bourdi. On estime à 130 000 le nombre de ces malgré nous. 40 000 sont morts sur le front, notamment en Russie, dans les combats contre les troupes soviétiques. Bonjour Philippe Collin.
Jérôme, bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, producteur des séries documentaires historiques d'Inter, face à l'histoire. Et puis, un peu plus en vous aviez publié il y a quelques années une bande dessinée intitulée « Le voyage de Marcel Grob ». Vous y racontiez le destin de votre grand-oncle alsacien et malgré nous. Rappelez-nous ce qui est arrivé à ce Marcel Grob.
Incorporé de force le 28 juin 1944, 3 semaines après le débarquement en Normandie. Intégré de force, non pas dans la Wehrmacht, Jérôme, mais dans la Waffen-SS. C'était un cas particulier, c'était à peu près 20 000 sur les 130 000 que vous évoquiez. Donc un destin tragique. Comme tous ces Alsaciens mosellans qui ont été incorporés de force dans l'armée allemande, il faut le rappeler, c'est vraiment incorporé de force. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer que ces gamins auraient pu prendre le maquis, par exemple, ou s'échapper. Mais il y avait ce qu'on appelait la Siebenhaft, qui a été imposée par le Gauleiter en poste à Strasbourg, Robert Wagner, il s'appelait, nazi. C'est quoi la Siebenhaft? C'est qu'on fait peser sur la famille du criminel, entre guillemets, ouais. Donc le fuyard, de lourdes conséquences. Ça veut dire que si vous fuyez, votre famille,
si
parents,
vous frères,
si vous désertez, vos parents, vos frères, sœurs, oncles et tantes, grands-parents sont déportés. Vous voyez la pression qui pesait sur ces gamins alsaciens français. Parce que rappelons-le, Jérôme, L'Alsace-Moselle est annexée de force par l'Allemagne nazie. Il n'y a aucun traité international. Vichy va manifester un petit peu.
Il y a un statut à part pour l'Alsace-Moselle.
Mais ils restent français. Ils ne sont pas allemands, contrairement au traité de Francfort en 71-1800, où l'Alsace-Moselle avait été annexée par le droit international. Là, c'est une annexion du Troisième Reich.
Où a combattu Marcel Grob ?
Alors d'abord, formé dans le nord de l'Allemagne, au nord de Berlin, près d'Hambourg. Et puis ensuite en Italie, sur le front italien, notamment à Marzabotto, qui est l'équivalent de Radour-sur-Glane en Italie. Un massacre de civils terrible auquel mon grand-oncle a été contraint de participer. Tragédie, évidemment, tragédie. Il avait, je le rappelle, 18 ans à l'époque.
Vous parlez d'Oradour-sur-Glane. L'entrée des malgré nous dans la mémoire nationale, c'est ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui. Elle a longtemps été impossible, elle a fait polémique. Il y avait des malgré nous dans la division Das Reich qui a commis le massacre d'Oradour-sur-Glane. Certains ont été condamnés. Il y a eu ensuite une loi d'amnistie qui a été votée. Ça a provoqué une colère profonde à Oradour et au-delà.
Oui, parce que c'est une blessure vraiment de l'histoire française. Pendant très longtemps, on a considéré les malgré nous comme des traîtres à la patrie, sans vraiment prendre en compte la douleur, l'émotion, le traumatisme de cette population alsacienne. Vous savez, ce n'est pas un jour anodin aujourd'hui pour les Alsaciens. C'est une journée très importante de reconnaissance parce que les blessures sont encore vives. Mais évidemment, quand on était à Oradour-sur-Glane, on a du mal à comprendre que tout d'un coup, on amnistie ces Français qui ont participé au massacre. C'est vraiment une blessure, une cicatrice très complexe. Mais je crois que 80 ans après, le président Macron prend une décision de réconciliation mémorielle et c'est très important, je crois.
Il le fait le 11 novembre, il ne le fait pas le 8 mai, parce que c'est le jour où l'on commémore, où l'on célèbre tous les combattants de l'histoire de France, ou parce que peut-être c'est encore trop douloureux, trop sensible pour l'associer au 8 mai ?
Peut-être. En tout cas, il faut quand même avoir en tête que durant la Première Guerre mondiale, 380 000 Alsaciens ont participé à la guerre côté allemand. Parce qu'à l'époque,
l'Alsace était allemande avant 1914.
Vous voyez, c'est aussi important de voir ce statut qui avait changé et ces jeunes Alsaciens mosellans étaient naissance de Français pour la plupart, nés en 20, 25, 26, et avaient une culture française. Donc c'est important de rappeler au moment de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre, que ces gars-là, ces jeunes gars-là, étaient devenus Français. Un mot, Jérôme, ouais. Il y a aussi les malgré elles. 15 000 femmes dont on ne parle jamais et qui ne sont pas encore reconnues. Voilà, 15 000 gamines qui ont été forcées à se battre entre 42 et 44.
Elles ont combattu ?
Bien sûr, notamment elles sont légères. Donc elles sont sur les tourelles de la DCA allemande. Vous voyez, donc ça c'est 15 000 femmes, 15 000 jeunes Alsaciennes mosellanes dont il faut parler parce qu'elles n'ont pas de reconnaissance ni de plaque aux Invalides ce matin.
Il y a le regard de l'historien, Philippe, il y a aussi l'histoire familiale personnelle.
Complètement.
Comment est-ce que vous vivez cette reconnaissance
aujourd'hui ? Je suis très ému, je vous dis, je suis très ému. J'ai entendu le petit-fils qui parlait dans le reportage. J'ai une émotion partagée avec eux. Ça a été un grand voyage pour nous-mêmes, les auteurs de cette bande dessinée. Et je repense à plein de gens que j'ai croisés en 2018, 2019, 2020, qui étaient au bord des larmes à chaque rencontre. Je pense qu'ils sont très heureux ce matin que tout d'un coup, le président de la République, de tous les Français, de toutes les Françaises, décide de les réincorporer dans la mémoire nationale.
Voilà. Merci Philippe Collin d'avoir été avec nous dans ce 13-14. Le voyage de Marcel Grob chez Futuropolis.
Absolument.
Me semble-t-il toujours disponible. Et bien évidemment, le podcast Face à l'Histoire. Le chanteur Jean-Jacques Goldman lui prend la parole et la plume plus précisément en ce 11 novembre. Message écrit à la main et adressé aux Français aujourd'hui via l'association Bleuets de France dont il est l'ambassadeur. Pas de paix sans gardien, ni liberté sans soldat, écrit Jean-Jacques Goldman. Il me semblait important de montrer notre reconnaissance envers nos armées, ses blessés, plus généralement avec toutes les forces de sécurité qui nous protègent au quotidien. Fin de citation. Il sera à nouveau question de liberté et de sécurité. Ce sera après-demain pour d'autres commémoration, celle des attentats du 13 novembre 2015. Et c'est dans ce contexte que le seul survivant du commando du 13 refait parler de lui, Salah Abdeslam, dont on a appris hier que la justice soupçonnait son ex-compagne de lui avoir remis il y a quelques mois une clé USB avec à l'intérieur de la propagande djihadiste. Elle est pour cela mise en examen. Et bien l'avocate d'Abdeslam dit aujourd'hui qu'il souhaite entrer en contact avec des parties civiles pour participer à ce qu'on appelle la justice restaurative.
On a une personne qui, potentiellement, aimerait pouvoir expliquer un peu la situation et peut-être discuter, ouvrir une porte aux parties civiles, si toutefois celles-ci le souhaitent, pour pouvoir pouvoir évoquer la détention et évoquer ce procès-là.
Maître Olivia Ronen, ce matin sur France Info. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Ce qu'il faut dire, c'est que Salah Abdeslam a déjà engagé, il y a quelques années, des démarches pour participer à ce qu'on appelle donc la justice restaurative.
Oui, il a même été quasiment sur le point de rencontrer une victime, notamment qui a perdu sa fille au Bataclan. C'était en Belgique. Finalement, la rencontre ne se fait pas pour des raisons de contexte, m'expliquent ses avocats, puisqu'à l'époque, Salah Abdeslam tentait d'éviter en vain donc son transfèrement en France. Il n'a donc jamais à ce jour eu de parloir avec une victime de terrorisme, mais il a entretenu des correspondances avec certaines d'entre elles. Et ça, ce dialogue qui est pour le moins étonnant, c'est clairement au cours du procès qu'il a germé, avec une scène qui n'a d'ailleurs jamais été racontée jusqu'à présent, celle de Stéphanie, rescapée du Bataclan, qui est allée parler à Salah Abdeslam dans le box des accusés.
Je lui ai expliqué que j'étais une victime du Bataclan, que je l'avais écouté, que effectivement, par rapport à ce qu'il a raconté sur le fait qu'il ait renoncé à se faire exploser, j'avais pris le parti de le croire et que je le remerciais d'avoir parlé, que moi, ça avait fait beaucoup de bien et que j'avais pas de colère ou de haine en particulier contre lui, en fait. Ça aurait été lui ou quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. Il m'écoutait avec attention, il me souriait, je le voyais un peu ému. Moi, j'étais un peu ému aussi. Et donc, il m'a remercié. Il me souhaitait bon courage. Il m'a même dit à bientôt. Dans ma tête, je me suis dit, je pense pas. Et puis, on s'est souri. Et puis, après, il s'est levé pour partir avec les gendarmes. Et là, j'ai laissé la tension accumulée pendant les 3 jours, là, et partie d'un coup. Pour moi, le procès était fini.
Et aujourd'hui, Stéphanie se dit rassurée d'entendre que cette porte de dialogue est toujours ouverte. Et elle, mais aussi d'autres victimes que j'ai pu joindre ce matin, m'ont confié avoir envie d'essayer d'aller le rencontrer en détention.
Témoignage exceptionnel, on entend de Stéphanie. Pour revenir à Salah Abdeslam, Charlotte, tous les condamnés peuvent-ils prétendre à cette justice restaurative? Comment ça se passe?
Alors, ce qu'on appelle la justice restaurative à proprement parler obéit à des critères très stricts et encore plus sur des détenus très radicalisés, ce qui, si l'on en croit les contenus djihadistes attribués à Salah Abdeslam, est son cas encore aujourd'hui. Mais des rencontres avec les victimes plus largement existent, même si on est au balbutiement en France. Cela concerne une minorité de personnes, rappelons-le, mais elles se rendent, ces victimes, en détention pour échanger avec des condamnés pour terrorisme, certains très lourdement, que ça soit dans le cadre de rencontres collective et unique ou individuelle et suivie.
Merci Charlotte Piret. Pour en savoir plus, je renvoie à votre reportage diffusé avant-hier dans le magazine Interception et intitulé « Terrorisme et justice restaurative, osez le dialogue ?» point d'interrogation. C'est à retrouver sur le site et sur l'application Radio France. L'Assemblée nationale, elle, fait relâche en ce jour férié. Les débats sur le projet de budget de la Sécurité sociale reprendront demain, avec au menu le texte sur la suspension de la réforme des retraites. Et surprise de dernière minute, le gouvernement a annoncé hier soir que cette suspension, si elle est votée, concernera aussi les carrières longues. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Tout cela pour convaincre davantage de députés de gauche de voter ce budget?
Oui, un dernier geste concédé à quelques heures d'un vote clé sur la suspension de la réforme Borne, demain 15h. Et c'est précisément ce que demandait une partie de la gauche. Une clarification sur les carrières longues. La lettre rectificative initiale du gouvernement n'en disait rien. Un angle mort accusait les socialistes qui risquaient, disait-il, d'effacer l'avantage déjà acquis des carrières longues. L'exécutif va donc rectifier par un amendement déposé en dernière minute, on l'a appris hier soir. Mais on n'en connaît pas encore l'écriture exacte, quels critères seront retenus, quels coûts supplémentaires pour les caisses de l'État. Plusieurs centaines de millions d'euros, évalue à la louche un député Renaissance. Mais qu'importe, l'objectif du gouvernement est ici surtout de sécuriser le vote de demain des socialistes, mais surtout celui des écologistes et des communistes. Plus difficile à convaincre, les voix de ces deux groupes ont manqué déjà samedi dernier lors du vote sur le volet recettes du budget de la Sécurité sociale. Finalement adopté mais à 15 voix près seulement, demain il pourrait aussi y avoir un problème arithmétique car une partie du bloc central a prévu de s'abstenir sur la suspension des retraites. Et puis autre intérêt pour le gouvernement, arracher un vote pour des écologistes et des communistes, c'est isoler un peu plus la France insoumise. LFI a prévu de voter contre la suspension de la réforme, elle la juge insuffisante.
Marie Mollet, toujours dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Les haltes soins addiction, plus connues sous le nom de salles de shoot, elles vont être prolongées d'une année supplémentaire. Amendement du gouvernement, voté par les députés. On en trouve à Paris et à Strasbourg, pour l'instant uniquement. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Mais l'objectif, en fait, c'est de pouvoir les étendre dans toute la France.
Oui, cela fait 9 ans que ce dispositif a été lancé. 9 ans d'expérimentation qui montre que les haltes soins addiction, les HSA déployés à Paris et Strasbourg, fonctionnent fonctionne. Trois rapports indépendants l'ont démontré d'un point de vue sanitaire, mais aussi pour la tranquillité publique, pour les riverains surtout. Il est donc temps de passer à la vitesse supérieure pour Anne Souyris. Cette sénatrice écologiste a rédigé une proposition de loi dans ce sens, soutenue aussi bien par la droite que le centre et la gauche.
Ma proposition de loi, c'est de dire il faut le passer maintenant, le basculer dans le droit commun. Il faut que ces possibilités de pouvoir consommer sous supervision médicale, de pouvoir se sevrer, tout ce parcours de soins, il commence son point zéro. C'est vraiment la salle de consommation.
Constat partagé par les médecins qui réclament eux aussi leur généralisation. Des projets pourraient rapidement voir le jour à Marseille ou à Lyon. Il faut donc que la loi évolue et très vite, estime Benjamin Roland. Il est addictologue au CHU de Lyon et à l'hôpital de Vinati.
En France, on est des spécialistes des expérimentations qui ne finissent jamais. Probablement, les politiques sont un peu frileux de prendre des décisions définitives. Sauf qu'à un moment donné, quand l'expérimentation est concluante, eh bien, il faut en tirer les conclusions qui s'imposent.
Alors pour l'instant, ce dispositif ne tient qu'à un fil. Si, et l'hypothèse est aujourd'hui loin d'être farfelue, aucun budget n'est voté à la fin de l'année, les HSA pourraient, Jérôme, purement et simplement disparaître.
Jérôme Val.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Il a fêté l'an dernier ses 50 ans, attire chaque année près de 200 000 visiteurs. Le Festival d'Angoulême est le rendez-vous de la BD en France. Mais rien ne dit que la prochaine édition prévue fin janvier 2026 aura bien lieu. Le festival est en danger de mort. Voilà ce qu'écrivent ce matin dans le journal L'Humanité. 20 lauréats du Grand Prix de la Ville, dont Anouk Ricard, Lévi Strondheim, Jacques Tardy ou encore Riyad Sattouf. Julien Baldacchino, vous êtes avec nous. Ce qui a mis le feu aux poudres, Julien, c'est l'annonce de la reconduction le week-end dernier de la société 9e Art comme organisateur de l'événement.
Oui, car cette société et son délégué général Franck Bondou sont très critiqués, des critiques qui portent sur le management des équipes, la politique tarifaire du festival et plus globalement des accusations de mépris des auteurs et des autrices et de leurs griefs. La gestion de 9e Art Plus devait s'arrêter en 2027 puisqu'un nouvel appel d'offres devait réattribuer la production exécutive du festival. Sauf que ce week-end, le festival a proposé à cette société de garder la gestion pour 10 ans de plus en s'associant avec la Cité internationale de la BD d'Angoulême. Tout cela alors que tout le monde de la bande dessinée et même l'État et les collectivités avaient clairement affiché leur souhait de ne pas voir 9e Art Plus reconduit.
Dans cette impasse, Julien, sans auteur, le festival peut-il avoir lieu ?
Ça devient compliqué, d'autant plus que ça ne concerne pas que les auteurs et autrices. Le syndicat national de l'édition a aussi annoncé qu'il ne viendrait pas s'il n'y avait pas de clarification sur ce choix du festival. Dans tous les cas, l'événement peut avoir lieu, mais un festival d'Angoulême sans dédicace, sans masterclass ni conférence, ça pourrait bien aussi faire fuir le public. D'ici au 20 novembre, les deux partenaires, 9e Art et la Cité internationale de la BD, doivent présenter leur projet commun. Le ministère de la Culture a annoncé qu'il attendrait cette date pour prendre position.
Julien Baldacchino, artiste francophone la plus écoutée au monde, Aya Nakamura, va remplir en mai prochain trois fois d'affilée le Stade de France. Ce sera une première pour une artiste française. Elle va sortir un album dans 10 jours et prendre la route des festivals. Ça, c'est pour le volet succès. Mais il faut aussi rappeler qu'Aya Nakamura continue à faire l'objet d'insultes sur les réseaux sociaux. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
À l'occasion de l'annonce, par exemple, il y a quelques jours, de sa venue à Brive, en Corrèze, l'été prochain.
Sous chaque publication Facebook, un flot de commentaires haineux, des blagues de très mauvais goût, des critiques et des insultes envers la chanteuse. Parmi ces commentaires, en voici quelques-uns. « Elle est vulgaire », écrit un internaute. « Elle n'a pas de talent », affirme un autre. Ou encore celui-ci au Roland raciste. « Ça va ramener toute la racaille au centre-ville ». Aya Nakamura est attaquée de manière récurrente, comme après l'annonce de sa participation à la cérémonie des JO de Paris. Cette vague de messages, on s'y attendait, mais pas à ce point, confie Stéphane Canarias, le patron du Love Libri Festival, interrogé par le journal La Montagne. Ce n'est pas un cas isolé quand on regarde les autres publications Facebook annonçant un concert d'Aya Nakamura, comme le festival Borgard en Normandie. On constate des commentaires similaires. Mais les réseaux sociaux ne reflètent pas l'engouement créé par la venue de l'artiste. À Brive, la billetterie s'affole. La moitié des 15 000 places a été vendue en moins d'une semaine.
Victor Vasseur, il faut croire que la période qui court de la Toussaint, donc début novembre, jusqu'à Noël, fin décembre, est bien trop longue pour le commerce. Alors il y a quelques années, les enseignes françaises ont adopté le Black Friday venu d'Amérique du Nord. Cette année, ça tombe le 28 novembre. Mais nouveauté 2025, ces enseignes sont de plus en plus nombreuses à communiquer autour des Single Days, la fête des célibataires qui tombe précisément ce 11 novembre. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Ces Single Days, contrairement aux apparences, viennent plutôt d'Asie.
Ouais, c'est une opération promo qui nous arrive en fait de Chine avec toute une légende derrière que nous explique Olivier Dauvert, spécialiste commerce et conso.
Historiquement, le 11 novembre, c'est-à-dire le 11-11, on célébrait les célibataires parce que la symbolique du chiffre 1, c'est l'individualité. Et puis, Alibaba, qui est l'un des très grands sites internet en Chine, l'équivalent d'Amazon, a eu l'idée d'en faire une fête commerciale.
C'était en 2009, succès phénoménal, c'est peu de le dire. Tenez-vous bien, on estime aujourd'hui à 140 milliards d'euros l'argent dépensé par les Chinois lors de ces Single Days. C'est colossal et forcément, ça donne des idées. Tout le monde s'y met, de Lidl à la Redoute. Les promos chez nous sont partout désormais, sur les canapés, les parfums aussi cette année, avec des comptes à rebours qui clignotent sur les sites des différentes marques.
Ça laisse à penser dans la tête du consommateur que c'est maintenant qu'il faut acheter et finalement c'est une forme de conditionnement mental des consommateurs. On a besoin de faux prétextes, les commerçants l'ont compris et ils nous font des promotions, quitte d'ailleurs parfois à ce que la réalité de la promotion soit contestable parce que le prix d'origine n'a jamais été pratiqué.
Conseil donc, avant d'acheter, comparez, réfléchissez. Au pire, si vous avez un regret, vous pourrez toujours vous rattraper lors du Black Friday qui arrive à la fin du mois.
Décryptage signé Maxime Debs. Là aussi, c'est Made in China et dans un secteur qui, normalement, est une spécialité européenne. Les tout premiers trains chinois de passagers sont sur le point de circuler en Europe. Ce sera en Autriche. La compagnie privée autrichienne Westbahn a acheté 4 nouvelles rames au constructeur chinois CRRC. Bonjour Myriam Roch-Massarin.
Bonjour.
Ces rames seront homologuées dans quelques jours par l'Union européenne.
Oui, d'ici la fin de l'année, les Autrichiens pourront se rendre dans l'ouest du pays à bord d'un Panda 4100. C'est le nom de ces trains achetés au constructeur chinois CRRC. Il y en a 4, des rames plus grandes, de 2 étages, avec moquette et machine à café. Pas de quoi séduire les syndicats, ni même le ministre des Transports. Tous s'opposent au choix fait par la compagnie autrichienne. La Westbahn a investi 70 millions d'euros dans ses nouveaux trains. Les syndicats dénoncent la concurrence déloyale entre l'entreprise chinoise et les constructeurs européens. CRRC, le plus gros fabricant de matériel ferroviaire au monde, reçoit des subventions massives de la part de l'État chinois. Ses prix sont donc bien plus compétitifs. Il affiche aussi des délais plus courts que ses concurrents. Le Suisse Stadler, fournisseur historique de la Westbahn, n'aurait pas été en capacité de livrer de nouveaux wagons aussi vite. De son côté, la Fédération autrichienne des ingénieurs s'inquiète de voir l'Europe perdre la bataille de la souveraineté industrielle.
Dans l'Allemagne voisine, région du Bade-Württemberg, plus de 100 000 petites et moyennes entreprises viennent d'avoir une très mauvaise surprise. Leurs patrons ont reçu un courrier qui leur demande de rembourser tout ou partie des aides reçues pendant la crise Covid. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Berlin. Cette injonction, on l'imagine, fait grincer des dents.
Ah oui, on parle là des aides d'urgence versées au plus fort de la crise du Covid pour compenser la perte de chiffre d'affaires liée aux 6 semaines du premier confinement. C'était en 2020, 9 000 euros pour les entreprises de moins de 5 salariés, 30 000 euros pour celles qui comptent jusqu'à 50 employés. Au total, le Land du Bade-Württemberg a attribué 245 000 subventions. Parmi les bénéficiaires, ce coiffeur de Heidenheim, près de Stuttgart, qui emploie 16 salariés, est privé du jour au lendemain de ses 40 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. La région lui a versé en contrepartie une aide de 15 000 euros. Mais après la crise sanitaire, le Land a fait ses comptes, ça a pris du temps visiblement, et décidé de réclamer les trop perçus aux entreprises, celles dont les résultats ont été en fait supérieurs aux prévisions. Le coiffeur a donc reçu un courrier lui demandant de restituer 10 424 euros. Comme lui, 117 000 autres patrons du Bade-Württemberg doivent rembourser ce qui était présenté au départ comme une subvention et non pas comme un simple prêt. Certains ont porté plainte contre ces recouvrements jugés abusifs. La justice doit se prononcer dans quelques jours sur leur légalité.
Sébastien Baer, correspondant de France Inter en Allemagne. Je vous ai déjà parlé ici même du scandale qui éclabousse le football turc. Des dizaines d'arbitres soupçonnés d'avoir parié de l'argent sur des matchs que parfois ils dirigeaient eux-mêmes. Ils sont plus de 150 à être concernés. Eh bien, l'enquête s'élargit. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour à vous.
En direct d'Istanbul, des centaines de joueurs et même un président de club sont désormais suspectés.
Oui, et même deux, puisque de clubs de Super League, puisque celui d'Eyup Sport a été incarcéré, celui de Kassem Pacha remis en liberté mais sous contrôle judiciaire. 6 arbitres ont eux été placés en détention provisoire, 11 remis en liberté surveillée et plus de 1000 joueurs sont dans le collimateur de la fédération. Ils sont convoqués devant le conseil de discipline. Quant aux matchs de 3e et 4e division, ils sont suspendus dès ce week-end. Pas ceux de première division, mais 27 des joueurs soupçonnés d'avoir placé des paris y évoluent.
Les joueurs mis en cause se défendent tout de même, Marie-Pierre.
Et oui, la plupart affirment qu'ils n'ont jamais parié ou que ce fut une fois, il y a des années, avant leur accession dans des clubs prestigieux. Necip Uysal de Beşiktaş a lui porté plainte au pénal ce matin.
Je n'ai jamais parié, je n'ai jamais ouvert de compte, mais on a ouvert un compte sur un site avec mon numéro d'identité pour placer un pari à mon nom. Je suis venu aujourd'hui porter plainte contre ceux qui ont usurpé mon identité pour parier. Je veux que toute la vérité soit révélée. Ça fait 20 ans que je suis joueur professionnel à Beşiktaş. Je suis attristé d'impliquer mon club dans une telle affaire. Depuis hier, j'en ai perdu le sommeil. C'est le moment le plus difficile que j'ai jamais vécu.
D'autres joueurs pourraient lui emboîter le pas. Les enquêtes, en tout cas, se poursuivent. Celle de la Fédération turque comme celle de la justice.
Marie-Pierre Véro, j'ajoute que la star du football portugais Cristiano Ronaldo affirme ce matin que la prochaine Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Mexique et Canada sera la dernière de sa carrière. On peut prendre soin de la planète de son vivant, on le doit plutôt. On peut aussi le faire après sa mort. Je fais référence à une nouvelle pratique funéraire, le compostage des corps humains. Ça s'appelle la terramation. C'est une alternative déjà autorisée dans 7 États américains. Il s'agit de laisser le corps humain se décomposer dans une fosse sur laquelle des plantes, des arbres vont pouvoir pousser. Ça reste toutefois interdit en France. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Et des chercheurs sont en train de documenter ce processus pour un jour obtenir l'autorisation.
Oui, comment se décomposent les corps enterrés ? Pour le moment, faute de savoir observer ce qui se passe sous terre, on n'en sait pas grand-chose. D'où ce projet scientifique qui va permettre de mettre des capteurs dans les sépultures. Il s'agit de comprendre la vitesse de décomposition des corps une fois mis dans un cercueil puis un caveau. Et on le sait, cela peut être très long, précise Damien Charabidze, entomologiste spécialiste des écosystèmes cadavériques à l'Université de Lille.
Un corps enterré peut prendre 10, 20, 30 ans, des fois même plus, pour se décomposer. Parce qu'on est dans des conditions qu'on appelle anoxiques, donc sans oxygène. Il fait très froid, sous terre, très humide, souvent avec un cercueil aussi. Et tout ça va préserver le corps et, en gros, ralentir sa décomposition.
Le bois du cercueil, s'il est traité, les plastiques, les produits utilisés pour préserver l'apparence du défunt vont par ailleurs polluer le sol. C'est ce que va chercher à comprendre Ludovic Lesven, maître de conférence en chimie de l'environnement à l'Université de Lille.
Quand on a une décomposition sans oxygène, eh ben on génère des sous-produits plus ou moins toxiques, en fait. Des sulfures, des gaz comme le méthane, comme l'ammoniac, comme les amines volatiles. Et si nappe phréatique il y a en dessous, ça peut rejoindre la nappe phréatique.
Combien de temps prennent tous ces processus ? Comment ça se passe ? C'est ce que devront dire les capteurs. Reste à les mettre au point. Ils devront résister à la corrosion, fonctionner seuls plusieurs décennies et transmettre leurs données via ondes radio ou Wi-Fi, car il n'est pas question, bien sûr, de rouvrir les sépultures. Ce ne serait éthiquement pas acceptable.
Sophie Becherel, allez, revenons à la vie et à la lumière. Et quelle lumière ! Celle qui réchauffe plusieurs régions de France en ce mois de novembre, exceptionnellement doux. C'est un courant d'air chaud venu du Sahara qui explique cette anomalie. Les 20 degrés seront dépassés cette semaine dans beaucoup de départements et cela se voit comme à Marseille, Fabien Leduc.
Oui, face à la plage du Prophète, Pauline fait une pause dans son footing.
C'est exceptionnel, j'adore. C'est, regardez comme c'est calme, tout le monde court, c'est génial.
On est en Californie un peu.
On est en Californie, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On est en Californie, en manches courtes, en short, c'est l'été.
22 degrés l'après-midi, des conditions idéales pour ce shooting photo.
Ce sont des vêtements qui allient style et protection solaire du coup.
Julie est créatrice de la marque Near the Sun.
Là, je pense qu'elles sont contentes. On a quand même pris les peignoirs au cas où, mais là, elles sont très bien.
À ses côtés, Eve est en short, chemisette et chaussures ouvertes, sans même avoir la chair de poule.
Ça arrive souvent de faire des shootings en plein froid et où il faut faire comme si c'était l'été. Là, j'ai beaucoup de chance.
En contrebas, la plage du Prophète a pris pour Alexandre des airs de Malibu.
Il fait bon, plus d'une vingtaine de degrés, il n'y a pas grand monde, il y a des bruits des vagues, des gens qui jouent au volet, on se dit quelle chance on a.
Vanessa, elle, fait une pause.
Alors là, je suis calée sur ma chaise de plage, face à mon terrain de beach volley, et on est bien.
Elle a même ressorti un objet qu'on croyait remisée au placard jusqu'à l'année prochaine.
C'est de la crème solaire, il faut se protéger. Au mois de novembre, on se demande quelles sont les saisons, quoi, c'est sûr. Dans le fond, ça pose question. Quoi.
Et d'où l'importance de la COP climat en ce moment à Belém, au Brésil, dont on reparlera sur Inter. Reportage ici Provence, 13h29. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Stéphanie Fromentin. Très douce donc. Puis, à partir de 13h30, Florian Grill, le président de la Fédération Française de Rugby, avec nous, 01 45 24 7000. Pour vos questions, 13h45, notre feuilleton dans les coulisses d'une cantine scolaire. Nous sommes dans le Cotentin. 13h50, c'est la France, c'est une chanson. Cyril Petit, Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui?
Eh bien, de Mont-Sirègne en Vendée à Levé, dans le Cher, en passant par Mauriac dans le Cantal, je vous parlerai, Jérôme, des monuments aux morts.
Et avec vous, Frédéric, un médecin que l'on connaît bien.
Baptiste Beaulieu, médecin généraliste et auteur à succès. Et avec lui, c'est un titre de Brigitte Fontaine que nous écouterons.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
T'as choisi ?
Je crois que je vais y aller.
Ça va pas ?
Je me sens vraiment fatiguée. J'ai de la fièvre, des douleurs thoraciques, j'ai du mal à respirer.
Ces symptômes ne sont pas anodins. Ils peuvent être dus à une pneumonie à pneumocoque, une infection respiratoire d'origine bactérienne aux conséquences parfois graves. Chaque année, elle touche des milliers de patients à risque. Pourtant, c'est une maladie que l'on peut prévenir par la vaccination et les gestes barrières. Vous êtes peut-être à risque. Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cette campagne d'information est menée à l'initiative de l'entreprise de santé Pfizer.
D'un côté, on peut se dire que le vaccin contre la grippe n'empêche pas forcément d'attraper la grippe. Mais d'un autre côté, le vaccin permet d'éviter les complications respiratoires ou cardiaques, pouvant mener à des hospitalisations, voire des décès. Si vous avez 65 ans ou plus, que vous êtes atteint d'une maladie chronique ou bien enceinte, le mieux, c'est de vous faire vacciner contre la grippe. Parlez-en à un professionnel de santé.
L'assurance maladie.
Après le Caire confidentiel et la conspiration du Caire, France Inter, partenaire du nouveau film de Tariq Saleh, Les Aigles de la République.
Madame Souzaine, c'est Georges Famy.
Oui.
Georges Famy, l'acteur le plus adulé d'Égypte, est contraint par les autorités d'incarner le président Sissi dans un film à la gloire du leader.
C'est l'acteur numéro 1.
Aspiré au cœur du pouvoir, il entame alors une relation dangereuse avec la mystérieuse épouse du général supervisant le film. Les Aigles de la République, au cinéma le 12 novembre, un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et
journée
tous.
Journée plutôt calme.
Oui, voire majoritairement ensoleillée. Quelques grisailles localisées sont tout de même prévues des Hauts-de-France à la Bretagne avec quelques gouttes sur le Finistère et du vent entre 60-80 km par heure en bord de Manche, 50 dans les terres. Le soleil a aussi du mal à percer sur les frontières du Benelux avec un voile nuageux qui glisse sur les vallées de l'Est, du Val-de-Saône jusqu'aux Alpes-Maritimes. En revanche, il s'impose partout ailleurs, des Vosges aux Charentes-Maritimes à la Corse, accompagné sur les Pyrénées par un vent de sud à 60-80 km par heure. Le vent marin, lui, apportera un ciel couvert et humide sur le Languedoc.
Et les températures, on était à Marseille il y a quelques minutes, qui continuent de grimper.
Elles affichent effectivement une très belle douceur. 11 à 15 degrés près des frontières du Nord, 14 à 19 en général, jusqu'à 20-23 sur le sud de l'Aquitaine et la Corse. Et ça va continuer de grimper jusqu'à vendredi. Il fait 14 à Beauvais, 16 à Paris et Aurillac, 19 à Angoulême et Montauban, jusqu'à 21 à Porto Vecchio, voire 23 à Pau.
Merci Stéphanie Fromentin.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Florian Grill.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Président de la Fédération Française de Rugby, nous allons parler de la santé du 15 de France, battu samedi soir par l'Afrique du Sud, de la popularité de cette équipe qui ne se dément pas, de la santé aussi, mais cette fois des finances de la Fédération, et puis la santé des joueurs, les joueurs amateurs, avec le risque de commotion est toujours bien prégnant, et toujours pour vous une préoccupation, je le sais. Ça, c'est les sujets de discussion que moi, j'ai dans ma tête. Il y a les vôtres aussi. 01 45 24 7000. Vous passez par le téléphone et par l'application Radio France. Florian Grill, est-ce que vous avez revu la défaite de samedi soir 32-17 au Stade de France?
Oui, bien sûr, je l'ai regardé. J'ai regardé aussi l'ambiance phénoménale qu'il y avait dans le stade. Mais j'ai regardé, bien sûr, le match deux fois.
Pourquoi on est si loin des Sud-Africains? toujours. Encore plus loin qu'il y a deux ans.
Non, bah c'est une fantastique équipe. Hein. Ils sont double champions du monde en titre. Ils jouent ensemble depuis 5 mois. Nous, on réunit les joueurs 2 semaines avant pour 5 entraînements. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est des choses dont on parle d'ailleurs de manière très apaisée avec la Ligue nationale de rugby, dont on parle aussi avec les autres nations, parce qu'il y a une question de calendrier nord-sud qui est toujours compliqué. Mais après,
bon, les Français ont eu moins de temps pour se préparer que les Sud-Africains.
Oui, mais il ne faut pas non plus chercher.
L'an dernier, ça n'avait pas empêché de battre la Nouvelle-Zélande.
Voilà, c'est le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, mais c'est des discussions qu'il faut qu'on ait de manière calme et apaisée, et c'est le cas. Et puis après, on est face à une équipe qui était supérieure à nous. À la 60e, on avait 4 points d'avance, mais à la fin du match, et c'est ce qui compte, c'est la fin du match, c'est eux qui l'emportent. Bravo à eux, ils ont une équipe assez incroyable, et ça nous montre un peu tout le travail qu'on doit faire.
Pourquoi il reste autant de travail alors qu'il y a une stabilité qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps dans le rugby français? Fabien Galthié est là depuis 2020. Il y a des moyens aussi qui sont mis à sa disposition, qui sont quasiment inédits dans l'histoire du rugby français.
Oui, Fabien et son staff, ils font un travail incroyable. Franchement, ils bossent comme des fous. J'étais encore avec eux hier. C'est pas le problème du... Il n'y a pas de problème de staff, il n'y a pas de problème de moyens.
Donc vous maintenez
de confiance absolue. Et en plus, humainement, il fait vraiment un travail de grande proximité avec tout le monde. Moi, je travaille avec Jean-Marc Lhermé, qui est mon bras droit sur la partie haut niveau là-dessus. Non, il faut qu'on regarde sereinement les choses avec la Ligue nationale de rugby, avec les autres nations sur l'harmonisation des calendriers, qui est un vrai sujet.
Il faut avoir plus les joueurs à disposition, c'est ça le problème.
Il faut qu'on discute. En fait, moi, mon juge de paix, c'est la santé des pratiquants. Et il faut, c'est clair qu'avec la multiplication des compétitions, le top 14, la Nations Cup demain, le tournoi des Six Nations, la Champions Cup, ça fait beaucoup de compétitions. L'équipe de France aujourd'hui, ça ne peut pas être juste 25 joueurs, c'est une 50aine de joueurs qu'on doit confronter au niveau international. Et il faut qu'il y ait des temps de repos, des temps de développement et puis des temps de compétition. Et ça, c'est le sujet principal, c'est la santé des pratiquants, la santé de ces joueurs. Et il faut qu'on en discute calmement avec la Ligue nationale de rugby, et c'est le cas.
Patrick est en ligne avec nous de Reims. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Vous avez regardé le match, je suppose?
Oui, j'ai regardé le match.
Moi, vous êtes inquiet, Patrick?
J'ai relevé 2 fautes au niveau de la 60e minute. C'est premièrement un grattage qui est illégal parce que le joueur sud-africain a les mains au sol. Et puis le deuxième chose, c'est un déblayage sur Ntama qui fait au moins 15 mètres et qui permet d'ouvrir la brèche pour marquer un troisième essai au sud-africain.
Bon, vous mettez les prestations de l'arbitre en cause, Patrick?
Non, je ne mets pas les prestations de l'arbitre en cause.
Ah ben là, c'est deux décisions.
Pour relativiser la défaite de l'équipe.
D'accord. Mais pas d'inquiétude outre mesure, si je vous comprends bien.
Non, surtout qu'il y a quand même une infirmerie qui est quand même très très remplie.
Merci Patrick pour votre appel. Vous parliez de la santé des joueurs à l'instant, Florian Grill. Précisément, il y a un joueur sud-africain, Lott de Jaeger, qui a pris un carton rouge pour un plaquage dangereux sur Thomas Ramos, qui a été touché au cou, à la tête, mais qui n'a pas observé de protocole commotion. Pour quelle raison est-ce que Thomas Ramos n'est pas sorti pour être examiné plus précisément?
Là, il y a un médecin de match qui évalue l'impact et qui décide si oui ou non ça justifie protocole. Ça n'a pas été décidé ni par l'arbitre ni par le médecin de match. Moi, je m'incline derrière les autorités compétentes.
On n'a pas pris de risque avec la santé de Thomas Ramos samedi soir?
Non, je ne pense pas, puisque ni le médecin ni l'arbitre ont décidé qu'il y avait lieu de le sortir. Et puis, il n'y avait pas de signaux. Vous savez, quand il y a une commotion, éventuellement, il y a des signaux qui peuvent se voir. Et ce n'était pas le cas. Il y a un choc qui est avéré, qui a justifié la décision de l'arbitre, mais il n'y avait pas de signal de commotion. Et d'ailleurs, Thomas, à la fin du match, n'était pas plus éprouvé que ça. C'était un choc, c'est certain, mais pas générant une commotion.
Il n'y avait pas besoin de l'examiner plus avant samedi soir.
Non, écoutez, ça s'est pas fait comme ça.
Il y a eu un gros couac dans l'organisation, on l'a tous vu à la télévision. Ce sont ces peintures qui sont retrouvées sur les joueurs. Peinture verte et peinture bleue, couleur des logos des 2 sponsors du match, qui avaient été peintes sur la pelouse. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est un sujet fondamental, mais je vous y réponds.
Non, c'est pas fondamental, mais j'ai trouvé ça pas très respectueux,
non,
au fond, pour les joueurs, de se retrouver avec de la peinture
sur
les maillots.
Bien sûr, il faut le regretter. Il y a un prestataire des Six Nations qui fait la peinture sur la pelouse pour le compte des Six Nations. Et effectivement, ça n'a pas été fait suffisamment tôt et donc elle était encore un peu fraîche. Voilà pour l'explication.
Ça sera mieux samedi à Bordeaux.
Bah, C'est le prestataire des Six Nations. Je pense qu'il a été briefé par les Six Nations. C'est pas la Fédération française de rugby qui avait en charge ce sujet-là. Et donc, j'imagine que ça sera mieux, en tout cas, que ça sera fait plus tôt, de manière à ce qu'il n'y ait pas de la peinture fraîche sur les joueurs.
6 millions, je crois, de téléspectateurs.
Ouais, des pointes à 7 millions.
Samedi soir.
Il y a une envie de rugby qui est absolument phénoménale dans ce pays et qu'on vérifie sur tous les territoires, et pas simplement pour l'équipe de France masculine, mais aussi pour les féminines, pour les moins de 20 ans. Il y avait presque 10 000 personnes à Châteauroux pour un match moins de 20 ans qui avait lieu dans l'après-midi. Voilà, en fait, l'envie de rugby est phénoménale dans ce pays. Les gens se retrouvent dans les valeurs du rugby, de respect, de solidarité. Ils ont envie de sourire avec le rugby. La scène qu'on a eue, la scénographie lumineuse qu'on a eue à l'entrée des joueurs, le respect pour Siya Kolisi, qu'on fait rentrer en premier.
Capitaine sud-africain, c'était sa centième sélection.
Centième sélection, la mise en lumière avec ce halo de lumière blanche autour des équipes au moment des hymnes, la Marseillaise a cappella, tout ça, c'est les moments qu'on a envie de vivre. On préfère regagner les matchs, mais je sais que le public se retrouve dans ce qu'incarne le rugby, et tant mieux.
Cette popularité auprès du public, auprès des sponsors, elle vous aide à redresser financièrement aussi la fédération? Est-ce que vous en êtes de ce point de vue-là?
Oui, bah, quand on est arrivé à la tête de la fédération, il y avait un déficit d'exploitation de l'ordre d'une vingtaine de millions. On a réussi toutes nos négociations, celle avec le Stade de France, celle avec la répartition des revenus des Six Nations. On a baissé les coûts, on a amélioré les produits, on a 10 nouveaux partenaires qui sont venus aussi pour le rôle éducatif et citoyen du rugby. Ça nous a permis, on avait dit qu'on redresserait en 3 ans, on le fait en 2. Donc ça, je suis content de ça. Après, il nous reste l'impact des 54 millions de pertes de la Coupe du Monde qu'il va falloir avaler.
C'est ça, la Coupe du Monde 2023 vous a coûté très cher, plus de 50 millions d'euros. Ouais. Vous allez les payer?
Alors, on est en discussion. Quand je suis arrivé, on m'a dit que la Coupe du Monde allait gagner 5 millions. En fait, j'ai très vite vu qu'elle allait en perdre beaucoup. Et en fait, elle en perd 54 millions. Et on est en discussion avec l'État et avec le CIRI. J'ai bon espoir que ces discussions aboutissent, parce que tout le monde comprend bien que la Fédération française de rugby ne peut pas être la seule
donc
qui perd.
Donc, partager l'ardoise, en quelque sorte, entre la Fédération
limiter,
et l'État.
Limiter la perte. On aura quelque chose à payer, certainement, mais limiter la perte. L'État fait beaucoup de revenus avec des recettes de TVA et avec des coûts de sécurité. 100 millions de recettes de TVA pour 100 millions de coûts de sécurité. Je pense qu'il faut qu'on discute, et on le fait.
Paul est en ligne avec nous, il nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Paul.
Oui, bonjour Monsieur le Président Grille. J'avais une question à vous poser concernant la question du dopage en rugby, en particulier sur l'équipe sud-africaine, dont les prestations extraordinaires m'étonnent un tout petit peu. On a vu de nombreux articles dans la presse concernant ce problème du dopage avec des Sud-Africains, qui datent pas d'hier. On sait qu'il y a eu des suspicions aussi sur la première Coupe du Monde portée par cette équipe. Je voulais savoir quelle était la position de la Fédération française de rugby sur ces questions de dopage. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu anormal dans ces prestations extraordinaires du rugby sud-africain?
Merci Paul pour cette question. Florian Grille vous répond.
Oui, ben nous on travaille beaucoup avec l'Agence française de lutte contre le dopage. D'ailleurs là, il y avait un cas d'un joueur qui avait été suspecté de dopage, mais en fait ça n'avait pas encore été instruit.
Un joueur sous le coup d'une procédure antidopage.
C'est ça.
Qui a tout de même été convoqué par le sélectionneur sud-africain.
Et donc on a, nous, questionné la FLD pour savoir si cette sélection était normale ou pas normale, et la FLD a dit oui, il n'y a pas encore eu de jugement, donc c'est normal qu'ils puissent jouer le match. C'est des choses qu'on suit de très près avec l'aide de la FLD, et on a raison de le faire parce que c'est un sujet important.
Vous faites confiance aux autorités antidopage sud-africaines, leur laboratoire de contrôle qui
on
a
fait
été
confiance.
Controversé.
On fait confiance à l'Agence française.
Le seul laboratoire national sud-africain a perdu son accréditation.
On fait confiance à l'Agence française de lutte contre le dopage pour discuter avec son homologue sud-africain et pour avoir le même niveau d'exigence que celle que nous, on peut avoir en France. Et nous, on travaille main dans la main avec la FLD, aussi dans l'ensemble des clubs amateurs, parce que le rugby n'est pas hermétique aux mots de la société, et des questions de dopage, on peut en avoir, et donc on y fait très attention, et on travaille main dans la main avec la FLD pour ça.
Mais vous dites, on est à armes égales avec les Sud-Africains?
Bah, écoutez, moi, à ma connaissance, tant que la FLD me dit pas le contraire, je considère qu'on est à armes égales et on travaille avec la FLD pour en être complètement sûr.
Édouard est en ligne avec nous de Chatou. Bonjour Édouard.
Oui, bonjour Jérôme, bonjour Florian.
Nous vous écoutons.
Oui, ma question porte sur les recommandations de World Rugby concernant la limitation du nombre de matchs. Fixé au début du mois d'octobre à 30 par an. On est l'un des pays où les joueurs jouent le plus, ce qui a un effet à la fois sur le niveau de fraîcheur des joueurs et aussi sur le nombre de semaines en équipe de France. Est-ce qu'il est prévu d'appliquer, de décliner en France cette directive, cette recommandation de World Rugby et aussi de disputer un quatrième test match international en France? On sait que les autres sélections anglo-saxonnes le font. Donc voilà, sur ce nombre de matchs et la possibilité d'un quatrième test match en France.
Merci Édouard. Florian Grille, président de la Fédération française de rugby, vous répond.
Oui, merci de poser la question, parce que pour moi, la santé des pratiquants, c'est l'alpha et l'oméga de tout ce qu'on doit faire sur le rugby. Et je le disais, il y a une multiplication des compétitions et ça passe forcément par une réflexion qu'on doit conduire avec la Ligue. On est en plein renouvellement de la convention avec la Ligue nationale de rugby et ça fait partie du cœur vraiment battant de cette convention. Les questions financières sont anecdotiques. Le vrai sujet, c'est la santé des pratiquants, le nombre de matchs, le nombre de minutes, le nombre de pauses qu'il peut y avoir après des matchs. Voilà, on est en passe, en s'appuyant aussi sur le résultat de ce week-end et sur le résultat aussi de la tournée d'été, de faire des propositions constructives à la Ligue nationale de rugby, parce qu'on ne peut pas durablement gérer le rugby sans faire attention au nombre de matchs et sans préserver un petit peu nos joueurs qui sont potentiellement trop exposés. Donc il faut qu'on fasse attention à ça. Et c'est ma préoccupation en tant que président.
Vous dites 30 matchs, c'est le maximum ?
30 matchs, c'est la recommandation de World Rugby. Moi, je veux pas...
Pourquoi vous ne le faites pas ? Pourquoi vous ne mettez pas la barrière ?
Parce qu'il y a une discussion à avoir avec la Ligue nationale de rugby et que cette discussion est en cours.
Donc si eux, ils n'avancent pas là-dessus, vous ne voulez pas avancer, ben, vous ne voulez pas priver des joueurs d'équipe de France, ils ont beaucoup joué avec Toulouse ou avec Bordeaux par exemple.
Nous, on considère qu'il y a une question de santé mentale et il y a une question de santé physique. Santé mentale, parce que mine de rien, la multiplication des matchs, quand vous rentrez dans un match de top 14 à forte intensité ou dans un match international à forte intensité, ben, psychologiquement, c'est lourd à porter et physiquement, c'est lourd à porter aussi. Donc la réflexion sur le nombre de matchs qu'un joueur peut faire dans une saison, sur les pauses auxquelles il a le droit, etc., est un vrai sujet. Et moi, en tant que président de la Fédération française de rugby, et dans le cadre de la subdélégation qu'on accorde à la Ligue, et donc dans le cadre de la convention qu'on est en train de négocier, c'est un sujet qui est absolument prioritaire.
Dans la question de la sécurité physique, il y a celle des commotions. Ça vaut pour les professionnels, ça vaut aussi beaucoup pour les amateurs. C'est documenté. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans la réglementation, Florian Grey ?
Alors, le sujet de la commotion, vous avez bien raison d'en parler, c'est un sujet absolument majeur, qui est une préoccupation pour tout le sport, tous les sports, pas simplement pour le rugby. J'en parlais pas plus tard qu'hier avec le président du Hand, ou avec les gens du foot, avec les têtes, etc.
On a des exemples de joueurs de rugby qui ont perdu la vie ces dernières années. Donc
on a des vrais sujets autour des commotions, donc on a énormément communiqué là-dessus. On a mis en place le carton bleu, on mesure avec l'ISPED, qui est un institut de santé publique, le nombre de commotions. Je peux vous dire qu'elle est 12 fois inférieure dans le monde amateur que dans le monde professionnel. Uh-huh. Donc vraiment, on a des mesures précises. Bien sûr qu'il faut toujours aller plus loin. Il y a une prise en main. Vous savez, ce qui coûte le plus cher, en fait, c'est l'absence de sport. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même se rendre compte qu'en termes de santé publique, le risque zéro ne va pas exister. Mais nous,
c'est mieux d'en faire que de ne pas en faire, mais il faut peut-être l'encadrer davantage.
Il faut en faire, mais il faut l'encadrer. Et donc, l'encadrement, il passe par un vrai travail de sensibilisation, un vrai travail de formation, un vrai travail de sanction aussi, quand il y a des attitudes sur un terrain qui ne sont pas les bonnes attitudes. Et ce travail, on le fait. Moi, je pense qu'on est une fédération exemplaire avec le carton bleu, et on va le faire avec l'ensemble des autres sports, parce que c'est un sujet qui touche l'ensemble des autres sports, le ski, le foot, le hand, l'équitation. Moi, je dis souvent que ma fille qui fait de l'équitation prend plus de risques que mon fils qui fait du rugby. On n'enlèvera pas le risque totalement, mais on se doit, et c'est ma préoccupation numéro un, d'aller plus loin dans la santé des pratiquants, et la commotion fait partie. On se bat aussi pour l'abaissement de la ligne de plaquage. On est en train de travailler le protège-dents systématique. Il y a plein de sujets comme ça qui sont essentiels.
Merci Florian Grill, président de la Fédération française de rugby, d'avoir été l'invité du 13-14 aujourd'hui, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie, c'est notre feuilleton à la cantine. Nous retrouvons à 40 ans les marais dans la Manche. Notre chef Sébastien Poitevin, qui est en fait en duo avec son second Wilfried.
Du beurre pour la pâte à choux de ce midi, pour faire les éclairs au chocolat. Donc voilà, là je prépare la pâte à choux. Derrière, je vais faire une crème pâtissière au chocolat, quoi. Et puis on va essayer d'être prêt pour midi un quart.
La sauce ou pas? Non. Il va rester que... Il va rester que ça, tu veux...
Tant pis.
Je te rajoute peut-être de la purée, non?
Donc moi je suis Lemire Wilfried, je suis seconde cuisine ici à 40 ans depuis 8-9 ans. Là où on retrouve du plaisir, c'est quand les enfants nous disent qu'ils sont contents, que
vous
c'est bon.
Vous avez des contacts avec eux? Chef, qu'est-ce qu'on mange à midi, c'est ça?
Ça arrive, mais en fait, c'est quand même assez rapide, en fait, parce qu'ils sont 350 à passer, donc on n'a pas forcément toujours le temps de discuter, quoi. C'est vrai que c'est agréable, quand ils passent, d'entendre dire « Oh, ça va, c'est bon ce midi », ou... avec l'équilibre alimentaire, avec la loi Egalim, on ne peut pas toujours leur faire des choses qui leur plaisent, quoi. Enfin, qui leur plaisent. On fait toujours au mieux, quoi. Mais on sait que mais un légume vert, ça va moins marcher que les frites, quoi. Il y a des menus où on est sûr qu'ils vont apprécier, et d'autres menus, ça va être plus compliqué, quoi. Donc ça, c'est mon pense-bête, hein. c'est mon répertoire. Depuis que je suis apprenti, depuis que j'ai commencé, hop, toutes les recettes que je trouvais intéressantes, je les ai notées. Et ben, mon répertoire, il me suit depuis l'âge de 18 ans. Comme ça, quand j'ai un trou de mémoire, et ben, je ressors mon répertoire et puis ben, je retrouve la recette, quoi. Bon, maintenant, les jeunes ont leur téléphone et tout ça, tout est noté sur téléphone. Moi, je suis encore avec mon répertoire voilà, à l'ancienne.
100 g de beurre, 20 g de sel, 20 g de sucre, 700 g de farine, x 2, donc 40, 1,4 kg. 1,4 kg de farine.
C'est souvent des produits locaux, bio, ça aussi c'est une satisfaction de bien faire manger ses enfants.
Bah bien sûr, ouais, bah c'est notre métier, quoi, d'essayer de travailler le plus possible avec les producteurs locaux, du bio. Et puis bah, voilà, qu'ils repartent avec le sourire aussi, quoi. J'espère qu'ils en sont conscients. J'en suis pas forcément toujours persuadé, quoi, mais on essaye de faire au mieux, quoi. Ça peut être ingrat. Alors pour moi, qui ai fait les saisons, qui ai travaillé dans le privé, où j'avais fait un gastro, où les gens payaient un certain prix, les gens repartaient et nous disaient merci. Là, on n'a pas souvent de merci, hein. C'est très très rare qu'on ait des merci, quoi. Enfin, on n'attend pas de merci non plus, hein, c'est notre travail, mais effectivement, ça peut être ingrat. Donc voilà, bon, là, je suis un petit peu perturbé quand même, faut que j'arrive à bosser si on veut que les éclairs soient prêts pour ce midi.
Pour établir les menus, en fait, on a un plan alimentaire, tout simplement. Par rapport à l'équilibre alimentaire, en fait, c'est assez complet. Du coup, ça nous aide beaucoup à faire les menus.
Entre les crudités, les féculents...
On a tout, quoi. On a une base, tant qu'on la respecte, après on est libre. Nous, les tartes, ici, on les fait maison. Ça, j'ai une liberté. Pour le Noël, le repas de Noël, je fais des petits chocolats maison. Ça, c'est moi qui veux le faire. On ne m'oblige pas à le faire, mais comme je veux le faire, on me laisse le faire. Donc, c'est une liberté que j'aurais peut-être pas ailleurs.
Vanessa Descoureaux pour ce deuxième épisode, réalisation Vincent Godard.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le mardi 13h50, Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires de monuments aux morts.
Et en ce 11 novembre, Jérôme, je vous emmène à Montsirègne, 1000 habitants en Vendée. Ce matin, comme partout en France, l'armistice de la Première Guerre mondiale y a été commémoré. Une gerbe a été déposée au monument aux morts. Mais ici, on a aussi honoré l'édifice lui-même, car il fête ses 100 ans, lit-on dans Ouest France. Sur la place de l'église, il avait été inauguré le 8 novembre 1925. On peut y lire le sacrifice de 48 soldats de la Grande Guerre et le nom de 7 soldats de celle de 39-45 ont été ajoutés plus tard, car souvent, hein, ces monuments de 14-18 rendent désormais hommage aux victimes locales de tous les conflits. Il fait partie de notre patrimoine, précise le président local de l'Union Nationale des Combattants. Nous ne devons pas laisser nos anciens dans l'oubli, c'est notre devoir de mémoire. Alors, vieillissant, l'édifice a été repeint bénévolement et les plaques ont été changées.
Et ce monument vendéen n'est pas le seul à célébrer son centenaire.
Loin de là, c'est aussi le cas à Coutances dans la Manche ou à Dugny-sur-Meuse. À Mauriac, dans le Cantal, une exposition célèbre le monument centenaire, conçu en bronze et en pierre de Volvic. Il avait été financé à 21% par les habitants via des tombolas et matchs de foot. Selon le journal La Montagne, il fait partie des 500 plus beaux de France.
Pourtant, il y en a beaucoup.
Presque partout. On en compte entre 36 000 et 40 000 en France, soit davantage que de communes. Certaines en ont plusieurs. Il y en a 3 à Pierrelatte dans la Drôme ou 4 à Plélan-le-Grand en Ille-et-Vilaine. Quelques rares villages n'en ont pas, comme Fresne dans l'Yonne. La raison, les soldats partis à la guerre sont tous revenus, écrivait hier l'Yonne République.
Mais que sait-on de la construction de ces monuments ?
Eh bien, voici quelques informations que m'a donné Yann Lagadec. Il est historien détaché à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Coët-Quidan dans le Morbihan. Les premières installations ont été envisagées dès la fin de 1914 et 80% des monuments ont été construits avant le 31 décembre 1924. Ces édifices, proposés à tous les prix et pour lesquels les communes recevaient des subventions, étaient souvent achetés sur catalogue. On lit tout ça, Jérôme, dans le magnifique roman de Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013. Ainsi, certaines statues de poilus sont identiques dans des centaines de communes, mais l'assemblage global reste différent. Alors, 80% des monuments ont été installés près de l'église ou du cimetière. Une grande majorité sont des obélisques, hein, ils étaient moins chers et ils permettaient de lister les noms plus aisément. Et puis, il y a partout des particularités comme la langue mise en avant ou la pierre utilisée, calcaire en vallée de la Loire, granit en Bretagne.
Plus d'un siècle plus tard, dans quel état sont ces monuments ?
Eh bien, globalement, plutôt bon. Hein. Beaucoup ont été rénovés dans le cadre du centenaire de la guerre de 14-18 et ils sont bien vivants grâce aux communes et à l'engagement des associations. Trois exemples. Jérôme a levé dans le Cher, la section locale du Souvenir français, vient tout juste de s'engager avec la commune pour l'entretenir pendant 10 ans. Mmh. À Flers, dans l'Orne, 6000 lettres viennent d'être gravées sur 8 nouvelles plaques. Les fautes d'orthographe ont ainsi été corrigées. À Crémieux, en Isère, 18 noms de poilus jusque-là oubliés viennent d'être gravés sur le monument aux morts 107 ans après. 18 noms sur quelques 1,4 million de Français qui périrent lors de la Première Guerre. Et je conclus, Jérôme, avec cette phrase au Dauphiné libéré du colonel Bardot, président local du Souvenir français, en prononçant leur nom pour ce 11 novembre, ils continuent de vivre.
De Levet à Flers, en passant par Crémieux. Merci Cyril Petit pour ce C'est la France. C'est une chanson avec vous, Frédéric Pommier, aujourd'hui. Un médecin, mais aussi un romancier, il s'agit de Baptiste Beaulieu.
Baptiste Beaulieu qui vient de faire paraître, édition Les Arènes, Les Pansements Invisibles, un livre pour enfants. Et dans le même temps, Le Chien d'Ulysse et autres récits, ouvrage coécrit avec Laure de Chantal, publié chez Albin Michel. Et c'est d'une chanson de Brigitte Fontaine qu'il a souhaité parler, Quand tu n'es pas là.
Ce que je trouve de profondément touchant dans cette chanson, c'est ce qu'elle dit en fait en tant que femme. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle est dépressive, qu'elle ne va pas bien, et que quand son homme n'est pas là, elle ne va pas bien. Et puis à la fin, quand elle dit finalement, même quand il est là, c'est pareil, elle bouleverse un petit peu les codes. Ce qu'elle dit, c'est que je n'ai besoin de personne pour être dépressive, et je n'ai pas besoin d'un homme pour être heureuse, et je n'ai pas non plus besoin d'un homme pour être dépressive. Laissez-moi seule avec ma dépression. Et je trouve que c'est un acte d'une liberté folle que de poser ça comme ça dans une chanson, quoi.
Quand tu n'es pas là, mon lit est un tombeau, le soleil est trop haut, les corps sont des statues, tous les pas sont perdus.
Vous avez connu des moments de grave dépression ?
Je crois que c'est l'essentiel de ma vie, oui. Il y a une phrase de Marguerite Duras qui me touche beaucoup. Marguerite Duras qui écrit « Toute ma vie, tous les soirs, j'ai hésité entre la soupe poire aux pommes de terre et le suicide. » Et je crois qu'elle décrit assez bien une certaine forme d'état d'esprit dans lequel je suis depuis que je suis né, je crois. Mais c'est aussi pour ça que j'écris des romans, que j'ai mon cabinet médical, que j'exerce, que je travaille beaucoup. Dès que je m'autorise à penser et à regarder la marche du monde, j'ai des idées qui ne sont pas très jolies, en tout cas pas des envies de soupe aux pommes de terre, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Et donc c'est aussi pour ça, je crois, que j'aime bien aussi Brigitte Fontaine, parce qu'on sent que derrière, il y a une écorchée vive, une sacrée dépressive aussi, mais une certaine forme de lucidité qui est mordante sur le monde et qui fait mal. Et parfois, j'aimerais peut-être être un peu moins lucide. Sans doute, j'en serais plus heureux.
1966 pour cette chanson de Brigitte Fontaine, Frédéric.
C'était sur son tout premier album, et cette chanson aurait pu s'appeler « Le mal de le vivre ». Cet état que connaît donc Baptiste Beaulieu depuis si longtemps.
C'est étrange parce que j'ai jamais parlé de ça, mais moi j'ai toujours été comme ça. Je pensais que c'était un substrat familial et que c'était comme ça une sorte de malédiction à laquelle on pouvait pas échapper dans la famille du côté de ma mère surtout. Je crois que c'est une hypersensibilité tout simplement. Voilà, tout ce que je vois, tout ce que j'entends me touche profondément, me blesse, me heurte et je n'arrive pas à m'anesthésier. Quand j'ai commencé mon métier de médecin, je me suis dit un jour je serai comme ces vieux médecins que j'ai pu voir au cours de mes études et qui sont anesthésiés à la douleur des autres, à la plainte, et qui finissent ce métier en détestant profondément l'humanité, alors que je suis persuadé que quand ils l'ont commencé, ils l'aimaient, cette humanité là et je crois que c'est ma malédiction, c'est que je n'arrive pas à être comme eux, c'est pas possible. Moi, ça me blesse, ça me tue, ce que vivent les gens, ça me révolte, ça me met en colère. J'ai jamais été aussi en colère que depuis que je suis médecin. Je rentre le soir, j'ai envie de tout casser, de casser le monde en deux. On écrit des livres à la place.
Quand tu n'es pas là, la ville est ville morte, avec la ronce aux portes, et à chaque tournant, des feux verts pour le vent.
Voilà.
Et à part l'écriture, qu'est-ce qui vous retient au monde ?
Bon, maintenant je suis papa, donc ça fait une grosse différence, hein, quand même, évidemment. Il y a cet enfant maintenant, et c'est aussi pour lui que j'écris. Je vais vous confier quelque chose, c'est que nous on est une famille homoparentale, et quand on a eu cet enfant, j'avais très peur que quand il arrive à l'école, on se moque de lui à cause de ses deux papas. Et donc j'étais très content de me lancer dans l'écriture d'albums jeunesse, et surtout très content qu'ils se vendent autant, pour une bonne raison, c'est que maintenant ils sont dans toutes les écoles, et je me suis dit, quand il va avoir 3 ans et qu'il va arriver à l'école... On le montrera peut-être du doigt, mais parce que c'est le fils du monsieur qui écrit les livres qu'on a à la bibliothèque de l'école, et pas parce que c'est le fils des deux monsieur. Voilà. C'est une bonne raison pour écrire des livres.
Il a quel âge aujourd'hui ?
2 ans et demi.
Quand tu n'es pas là, je respire de l'eau.
Et est-ce qu'il écoutera Brigitte Fontaine un jour ?
Quand il aura l'âge, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a certains textes qui sont gratinés. Mais ce genre de chanson, par exemple, il pourra l'écouter très tôt. Et j'espère qu'il rigolera de bon cœur à la fin de la chanson, comme j'espère les auditeurs, les auditrices rigoleront de bon cœur quand ils écouteront la chanson, et notamment la fin. Quoi.
Et quand tu es là, ah, quand tu es là.
C'est pareil.
Quand tu n'es pas là, Brigitte Fontaine. C'était donc, Frédéric, le choix et les confidences de Baptiste Beaulieu.
Baptiste Beaulieu, que vous pouvez retrouver en librairie avec Les pansements invisibles, livre pour enfants, et Le chien d'Ulysse et autres récits, livre pour adultes.
Merci Frédéric, et à demain, le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan à suivre.